Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, autant que je vous le dise tout de suite, on a un gros problème. Parce qu'il y a un Alain Fleischer, il est là, il est à côté de moi. Mais il y en a beaucoup. Il y a un écrivain, il y a un plasticien, il y a un photographe, il y a le directeur du Frénois, cette école d'art dans le nord de la France. Il y a un collectionneur d'objets insolites, comme certains héros de ses romans. Et donc, je ne sais pas trop quoi faire avec tous ces Alain Fleischer. Je ne sais pas comment on va. J'espère que vous allez m'aider un peu à la fin. Ce qui est sûr, c'est qu'on va surtout parler de l'écrivain, parce que c'est là où je suis le moins incompétente pour lui poser des questions. Mais je voudrais bien quand même que vous parliez un tout petit peu de ces autres activités. C'est-à-dire comment ça s'organise pour vous? Est-ce qu'il y en a une qui est prioritaire? Est-ce qu'elles sont complètement séparées?
Alors d'abord, elles se sont succédées dans le temps, je dirais dans le temps de la vie. J'ai commencé professionnellement par faire des films et par être cinéaste et par entreprendre une carrière de cinéaste qui marchait plutôt bien. Mes films étaient présentés dans les festivals importants, sortaient en salle, etc. Et puis, un deuxième temps a commencé quand, fréquentant plutôt le milieu de l'art que le milieu du cinéma, dont la vulgarité ne m'était pas très sympathique, j'ai découvert que c'était un terrain d'expression qui m'intéressait beaucoup. J'avais aussi des projets à réaliser. C'est la période où j'ai rencontré Christian Boltanski, Sarkis, Daniel Buren, Jean Le Gac, enfin des artistes à qui j'ai été lié. Alors que j'ai eu peu de liens d'amitié avec des cinéastes. Voilà. Après ça, j'ai fait beaucoup de... Dans ce champ de l'art, beaucoup d'installations, puis beaucoup de photographies. Je suis revenu au cinéma, d'ailleurs sans l'avoir jamais quitté, notamment par le biais du documentaire d'art, ce qui semblait une première confluence entre deux activités antérieures, le cinéma de fiction ou le cinéma expérimental et l'activité d'artiste. Donc là, j'ai fait des films sur l'art, des films sur les artistes, des films sur les musées. Et puis, la littérature est arrivée en dernier par ordre d'entrée en scène, je dirais, bien que c'était un projet premier. C'était le projet que j'avais eu étant enfant. Voilà, et que j'avais longtemps différé pour différentes raisons, dont je vois deux principales. La première est que j'avais pris la mesure des grandes figures qui occupaient le terrain, je dirais, de la littérature au XXe siècle notamment, et qui m'intimidaient, donc qui étaient pour moi des références, des modèles, et je me demandais comment écrire après Proust, après Kafka, Faulkner, Musil...
Joyce,
voilà. et puis que c'est vrai que quand j'ai eu une vingtaine d'années, il y avait un très grand appel dans le milieu du cinéma et de la part des producteurs pour de jeunes cinéastes, une situation qui est un peu différente aujourd'hui. Et donc, après quelques premiers films expérimentaux et presque d'amateurs que j'avais fait, j'ai eu tout de suite des propositions de producteurs importants. Voilà, donc je m'étais dit, ça ne se représentera pas. Alors que écrire, je pourrais toujours écrire. Ça coûte moins cher. Je n'aurais pas besoin d'un producteur, d'acteur, d'équipe technique ou autre. Voilà. Maintenant, comment ça s'organise dans ma vie d'aujourd'hui, puisque maintenant toutes ces activités cohabitent, ça s'organise par séquences qui peuvent se succéder à l'intérieur d'une même journée, vraiment à l'intérieur d'une même journée, mais sans jamais se mêler. C'est-à-dire que dans chacune de ces activités, je suis dans un dialogue très tendu, très serré avec ce champ-là, je dirais ce champ théorique, esthétique, historique, et ça m'extrait totalement des relations avec les autres disciplines. C'est-à-dire que quand je travaille à un livre, j'ai coupé complètement les ponts avec le champ de la photographie ou de l'art ou du cinéma. Et c'est au point que dans ce dialogue très tendu, avec un domaine, un langage, un moyen d'expression, j'ai l'impression d'être un autre, c'est-à-dire d'être des individus différents. Je résiste beaucoup à l'appellation d'artiste ou de créateur transdisciplinaire.
Oui, c'est ce que vous disiez dans un entretien au Monde. J'aurais tendance à me méfier de l'expression créateur multidisciplinaire ou pire encore, transdisciplinaire.
Oui. Alors, parfois, on me fait remarquer à juste titre que néanmoins, on trouve, par exemple dans mes livres, la présence d'un, je sais pas, d'un regard de quelqu'un qui utilise souvent des caméras ou des appareils photos dans la façon de cadrer une scène ou d'en décrire la lumière ou l'organisation de l'espace. Mais néanmoins, pour moi, par exemple, aucun de mes livres ne serait adaptable au cinéma. En tout cas, ça ne me viendrait pas à l'idée. Moi, je ne ferais jamais ça, ça ne m'intéresserait pas du tout. Et à la limite, je défie même quiconque de le faire, à moins de réduire complètement un livre à un aspect, à une histoire, à un chapitre. Là, c'est peut-être possible, mais ça ne serait donc pas une adaptation du livre. Et en cela, je me sens très, très différent d'autres créateurs qui ont été, par exemple, à la fois écrivains et cinéastes, comme Marguerite Duras ou Alain Robbe-Grillet, qui, dans le fond, n'ont cessé de créer des passerelles entre leurs livres et leurs films. D'ailleurs, c'est une chose très intéressante aussi. Hein, je ne dis pas que ce soit moins bien. Mais certains films de Duras sont strictement le reflet ou l'équivalence de certains livres, quand ce ne sont pas des adaptations, comme India Song, qui est une adaptation du Vice-Consul. Bon. Voilà, donc moi, c'est très différent. J'ai gardé peut-être des années d'enfance et de la discipline scolaire avec les différentes matières qu'on avait à assurer. Je me souviens du cahier de texte, mercredi matin, telle discipline à telle heure, vendredi soir, etc. Et je me souviens aussi de l'exigence de mon père qui était très sévère et qui ne supportait pas que sous prétexte que j'étais bon en français ou en anglais, que je ne sois pas aussi bon en mathématiques ou en physique ou en chimie. Donc voilà, c'est une sorte de à la fois d'exercice et de jouissance d'une totalité des moyens d'expression qui sont offerts et j'ai refusé de me priver de l'un d'eux, j'ai résisté à la spécialisation, je le paye relativement cher, hein, parce que c'est beaucoup plus facile, de faire carrière non seulement en adoptant un moyen d'expression, mais même à l'intérieur de ce moyen d'expression, d'avoir une signature, hein, comme on peut dire que justement Buren, que j'ai bien connu et que j'admire beaucoup par ailleurs, signe ses œuvres d'une façon tellement évidente qu'on les reconnaît tout de suite. Hein. Donc non seulement c'est plus facile d'être un artiste dans un domaine, identifié comme tel, étiqueté comme tel, mais même dans cette discipline d'avoir une esthétique, une signature très, très identifiable. Donc je n'ai pas choisi une solution facile, mais c'est celle qui me va le mieux. Et si c'est possible, pour moi, c'est parce que chacune de ces activités extrêmement... organisé, constitue une sorte de récréation de l'autre. Parfois, on me dit, comment tu arrives à faire tout ça? Bon, d'abord, je dors très peu, je dors à peu près 4 heures par nuit, je ne prends aucune vacance, parce que justement, les vacances, pour moi, quand je viens de terminer un film, comme j'ai fait ici même un film pour les 30 ans du Centre Pompidou, c'est de me retrouver là où j'écris mes livres et de me consacrer entièrement à la littérature. Et puis, de cette économie-là, qui est une économie domestique extrêmement simple, extrêmement solitaire et indépendante, de revenir à quelque chose de différent, de collectif, refaire un film ou m'occuper de la direction de cette école que j'ai créée dans le nord de la France, etc.
Mais dans cet entretien au Monde, vous disiez un peu ce que vous venez de dire, je ne suis pas tout à fait la même personne comme écrivain et comme cinéaste, convaincue que si l'écrivain que je suis devait faire des films, ce ne serait pas ceux que je tourne en tant que cinéaste, et réciproquement, si le cinéaste en moi se mettait à écrire. Mais ensuite, vous ajoutiez, mais ce qui donne à la littérature une place peut-être centrale, c'est la capacité de la langue à programmer et à commenter tout ce qui l'excède, images, sons, formes, dispositifs, etc. Donc, la littérature a une place centrale malgré tout ?
La littérature a une place centrale, non seulement parce qu'elle programme, mais parce qu'elle récapitule aussi. C'est-à-dire que je peux quand même, dans des textes de littérature, des essais, ou même dans des romans, parler de cinéma, ou parler de photographie, ou parler d'art, ce que je ne fais pas dans l'autre sens. Je ne ferai pas de film sur mes livres, par exemple. Donc ça ne marche pas dans l'autre sens. Alors que par ailleurs, le cinéma peut parler de tout. C'est sûrement la seule discipline qui peut reproduire toutes les autres pratiques artistiques et en parler. Par exemple, on peut faire des films sur la danse. Ça ne sera jamais l'équivalent d'un spectacle de danse, mais quand même, ça sera un mode acceptable d'en garder la trace. On peut filmer l'opéra, on peut filmer la peinture, même on peut filmer la photographie, on peut filmer le théâtre. On peut filmer la musique, on peut filmer un concert. Tout ça ne remplace pas l'événement authentique et original, mais néanmoins, le cinéma a cette capacité d'enregistrer, de conserver des traces acceptables de toutes ces autres pratiques, alors qu'il n'y a aucune réciproque. Vous ne pouvez pas faire, avec les mots d'un texte, vous ne pouvez pas faire un compte-rendu d'un film. Vous pouvez faire un compte-rendu d'un film, mais ça n'aura aucune équivalence avec le film. Vous pouvez aussi décrire un tableau, bien sûr, mais ça n'aura aucune équivalence avec le tableau. Donc voilà, c'est vrai que le cinéma a cette position qui permet de rendre compte de toutes les autres pratiques. Mais pour moi, c'est la littérature qui programme tout simplement parce que ce sont les mots. Je crois beaucoup à ça. Peut-être que c'est pas parce qu'à l'origine j'ai une formation de linguiste et d'anthropologue. Je pense que c'est la langue qui programme tout, y compris la perception des choses. Et d'ailleurs, quand je prépare un projet, alors là, quel qu'il soit, que ce soit un projet d'une série de photographies ou d'une installation ou d'un roman ou d'un film, je me le raconte d'abord avec des mots. Donc le projet pour moi, il est toujours d'ordre, je dirais, langagier. Je ne suis pas, par exemple, un artiste comme un sculpteur qui se laisse inspirer ou par la matière, ou par des formes, ou par des couleurs, ou par... Je travaille toujours avec des idées, je dirais. Mes installations, par exemple, quand j'en ai fait, elles étaient toujours à partir de spéculations, disons, sur... voilà, j'ai projeté telle image sur tel objet, ça va produire tel effet, ou je redistribue une image projetée par des miroirs en mouvement. Enfin, vous voyez, tout ça, ça se décrit avec des mots.
Et on dit que vous dictez vos livres, c'est vrai ?
C'est tout à fait vrai. C'est même devenu une modalité de travail tout à fait essentielle pour moi. Je crois que je ne pourrais plus écrire autrement. Donc j'écris sans inscrire.
Mais après, vous retravaillez sur l'écrit retranscrit.
Si vous me donnez 5 minutes,
je trouve ça fascinant. Quand je vous lis. C'est tellement élaboré, la langue est tellement élaborée, la construction est tellement élaborée que j'ai du mal à penser qu'il y a une oralité. Et donc c'est pour ça que ça m'intéresse de voir comment vous faites.
C'est précisément parce que c'est dicté, parce qu'il y a cette oralité, que c'est élaboré. Je vais essayer de m'expliquer. Quand on travaille traditionnellement, et je l'ai fait pendant longtemps, c'est-à-dire seul dans une pièce et qu'on efface soit une feuille de papier avec un stylo, une machine à écrire ou un ordinateur aujourd'hui, évidemment, bon, il y a ce dispositif de l'écrivain assez traditionnel, mais néanmoins, c'est une activité impure du point de vue intellectuel, puisque le corps travaille. La main travaille, le corps travaille, on est à une table, le dos est voûté, l'œil travaille beaucoup, hein, il regarde le texte. Et donc, il y a à la fois un travail physique et un travail intellectuel. Et ce n'est pas séparable. Bon, pendant très longtemps, c'est une chose que j'ai souvent dite, et pour ceux qui me l'ont entendu dire, pardon, j'ai fait mienne une observation de Sartre quand il était devenu aveugle et qu'un journaliste lui avait dit « mais vous pourriez continuer à écrire en dictant ». Et Sartre avait répondu « non, parce que le style, ça se regarde ». Je m'étais dit « c'est absolument vrai, le style, ça se regarde, un livre, ça se regarde, on le considère, on ouvre les pages, on voit comment sont composés les paragraphes, la typo sur la page. Les... » Bon. Alors, en fait, c'est totalement faux.
C'est totalement faux.
Pour moi, le style, finalement, ça s'écoute, ça s'élabore dans l'oralité de la langue. La langue est d'abord orale. La preuve, c'est qu'il y a des langues sans écriture. Toutes les langues n'ont pas une écriture. Alors que toutes les langues racontent des histoires, que toutes les langues racontent des mythes, des contes. Bon. Donc toutes les langues en gros ont une littérature, alors que toutes n'ont pas une toutes les langues ont une littérature, alors que toutes n'ont pas une écriture. Bon. Donc quand je dicte mes textes maintenant, d'abord je suis dans une situation physiquement idéale puisque le corps au repos, l'œil ne travaille pas, je peux même dicter les yeux fermés, les mains ne travaillent pas, donc je suis entièrement dans la projection du texte, dans la conception du texte. En le projetant comme ça, oralement, en le proférant, je dirais, je l'entends, donc je l'entends comme un événement sonore, peut-être musical, avec tous les effets de rythme, donc de ponctuation, d'assonance, de prosodie. J'entends la longueur des phrases et je cherche dans cette profération à aller jusqu'au bout du sujet de chaque propos, à l'épuiser. Et je pense que c'est comme ça, dans cette idéalité de l'écriture sans inscription, que j'arrive à cela. Même quand les phrases sont très très longues, il arrive que parfois elles aient deux pages, je sais absolument où j'en suis de la ponctuation, de la syntaxe. C'est très rare que je fasse des erreurs de syntaxe dans la dictée, même dans des phrases longues. Et donc pendant tout le temps de la dictée, qui peut durer 8 heures, puisque quand je travaille avec ma compagne qui est ici présente, nous travaillons parfois, c'est en été, souvent, enfin l'essentiel de mes textes, je les fais au mois d'août, après je bricole la nuit, les week-ends, je peux dicter pendant 8 heures d'affilée. Et pendant ces 8 heures, le texte pour moi reste virtuel. Je sais que je l'ai dit, je ne sais pas où il est, je ne sais pas quelle matérialité il a, je ne sais même pas s'il existe, s'il est vraiment enregistré. Parfois, il y a quelques petites catastrophes qui peuvent se produire quand l'ordinateur a des problèmes. Mais donc, pendant tout ce temps, c'est exactement comme une photographie que vous faites avec un appareil traditionnel argentique. Vous faites une photo et jusqu'à ce que vous la portiez au laboratoire, vous ne savez pas ce que vous avez fait. Elle est là sans être là. Elle est latente. On dit que c'est une image latente. Eh bien, moi, donc, pendant 8 heures, je peux avoir un texte latent. Et c'est essentiel pour moi d'avoir écrit comme ça, c'est-à-dire écrit sans inscription. Tout s'est passé dans une sorte d'apesanteur. Le texte se projette sans résistance aucune, physique, pour moi. Il est comme envoyé dans l'espace, en quelque sorte, là où rien ne lui résiste. Et puis, il est vrai qu'à la fin de la journée, mais vraiment seulement à la fin de la journée, j'ai absolument besoin que le texte devienne une image, en effet. Qu'il redevienne une image au sens où l'entendait Sartre, quelque chose qu'on regarde. Et à ce moment-là, on imprime le texte, puisqu'on travaille avec un ordinateur, on fait une sortie papier, et le texte, dans ce deuxième temps seulement, devient une image, noir sur blanc, comme une photographie noir et blanc, des signes noirs sur une feuille blanche. Et dans ce deuxième temps, je le regarde, en effet. Je le regarde... Et je peux voir, alors c'est un grand plaisir de le voir, évidemment, et je le considère, et disons qu'il est joué. Alors je peux à ce moment-là le modeler, le peaufiner, faire des corrections, bien sûr, mais disons qu'à 90%, le texte est fait, a été joué. Alors je viens de faire une comparaison avec le travail du photographe et avec le processus de la photographie. Une autre comparaison pourrait être celle avec le travail du sculpteur qui travaille en bronze. Quand il coule le bronze dans son moule, ce qui correspondrait pour moi à la projection du texte, quand il le démoule, et là ça correspond au moment où moi je vois apparaître le texte noir sur blanc, il est là, la sculpture est là, la forme est là, et il lui reste évidemment à la patiner, à la limer, à la polir, etc. Mais l'essentiel est là. Ben voilà, avec ces deux comparaisons, j'arrive à peu près à faire comprendre ce qui se passe pour moi quand je dicte. C'est donc en deux temps. D'abord, ça s'écoute, je l'entends, c'est musical, avec peut-être d'ailleurs les pièges de ça. Parce qu'effectivement, la musicalité d'un texte, ça peut entraîner peut-être à certains travers esthétiques du texte. Donc ça, il faut que je m'en méfie aussi, mais en tout cas, c'est comme ça que je travaille. Et dans un deuxième temps, il devient quelque chose que je regarde, en effet, et c'est sa destination finale. C'est pourquoi d'ailleurs, et c'est pourquoi je ne le ferai pas aujourd'hui, il m'est très difficile de lire mes textes, parce que je les ai déjà dit en quelque sorte, et je ne les redirai jamais mieux. C'est-à-dire qu'une fois que je les ai dit, au moment essentiel de la dictée et de la création du texte, ce temps-là, ce temps du texte oral, il est fini. Après, je ne suis plus que dans le regard sur mes textes. Après, je ne peux plus que les regarder, les relire, mais les relire au sens, comme ça, en silence. Mais les dire, les,
Pas les redire, oui.
Pas les redire, ça m'est très difficile, parce que tout d'un coup, ça devient une opération, artificielle, réchauffée, qui n'a plus de sens pour moi. Parce que pour moi, les dire, c'est les trouver. C'est-à-dire que c'est en les disant que je les trouve, que je les conçois, que je les élabore, qu'ils se forment, qu'ils prennent forme, qu'ils surgissent. Alors que les redire à voix haute, ça devient une opération totalement, dépourvue d'enjeux, je dirais.
Alors, on ne va pas pouvoir parler de tous vos livres, parce qu'il y en a beaucoup maintenant. On va parler du dernier, déjà, et puis on va parler d'autres, notamment mes préférés, parce qu'il faut que je me fasse plaisir, moi aussi. Donc, attendez-vous à la hache et le violon longuement, parce que c'est vraiment un livre que je trouve absolument extraordinaire. S'il y a dans cette salle des gens qui ne l'ont pas lu, il faut le lire immédiatement. Mais on va commencer par Moisson d'or F, puisque c'est celui qui vient de sortir. Donc, en fait, c'est un livre pour lequel vous avez accepté une contrainte. C'est la contrainte d'une collection, c'est ça. C'est une collection qui s'appelle Alter Ego chez Fayard, et où on demande à quelqu'un, en fait, d'incarner un autre personnage. C'est ça le projet de la collection, exactement.
C'est une proposition que j'ai même eu du mal à comprendre quand elle m'a été faite, et j'ai réagi en deux temps. J'ai mis du temps à dire oui. C'est 3 ans avant que j'écrive le livre que j'ai rencontré le directeur de cette collection, qui s'appelle Jean-Luc Moreau, et qui me dit, voilà, il s'agit de... Alors, il faisait des allusions à l'autofiction, des choses qui ne me concernent pas du tout. Mais il me disait, voilà, il s'agit de faire un texte autobiographique, mais en vous projetant dans un autre, qui peut être d'une autre époque ou d'un autre pays. Je ne comprenais pas bien. Il m'a donné la référence de cette idée, qui est un livre d'Hermann Hesse, Le jeu des perles de verre, qui est un gros livre un peu ésotérique, où un professeur donne comme exercice à ses étudiants ça, se projeter autobiographiquement, mais dans un autre corps, en quelque sorte. Alors voilà, j'ai mis du temps à comprendre qu'il ne s'agissait pas, de s'imaginer un autre, de s'imaginer être un autre, mais de s'imaginer être soi dans un autre. Ce qui est un peu différent. Alors,
et vous n'avez pas fait ça exactement.
Je n'ai pas fait ça exactement, puisque d'abord j'ai laissé cette proposition un peu sans réponse pendant longtemps, et puis ce monsieur Jean-Luc Moreau est très gentiment revenu à la charge en me disant, alors bon, finalement ma proposition ne vous intéresse pas. J'ai dit si, mais il faut que je la comprenne, il faut que je trouve la justesse de la réponse, parce que sinon faire un exercice comme ça de commande, s'il ne correspond pas à un moment, s'il ne devient pas une nécessité, je ne le ferai pas. Alors c'est devenu une nécessité d'une certaine façon, c'est-à-dire que j'ai retrouvé l'envie de le faire comme si personne ne me le commandait, comme si je me disais, ben voilà, c'est ça que j'ai envie de faire maintenant, quand j'ai compris que je pouvais payer une dette à un personnage qui était déjà présent d'une façon un peu fantomatique dans certains de mes livres, qui est un oncle que je n'ai pas connu, puisqu'il est mort quand j'avais 3 mois, dans un train entre la Hongrie et Auschwitz, où il était déporté, mais il est mort en route, puisqu'il a eu la colonne vertébrale cassée à coups de crosse par un soldat allemand. De cet oncle, je savais peu de choses, et si ce n'est que ma tante, donc sa sœur, le décrivait comme d'abord son frère préféré. Elle avait 3 frères, dont mon père. Et puis elle me disait beaucoup que je lui ressemblais, que je le lui rappelais beaucoup. Donc il y avait une chose un peu étrange comme ça. Et puis j'avais reçu pour mes 20 ans en cadeau une chevalière ayant appartenu à cet oncle, et dans toute l'histoire finalement, et dans ce livre, puisque c'est par l'histoire de cette chevalière que l'histoire de la fin des derniers moments de mon oncle est parvenue. À travers l'histoire de cette chevalière qu'il a pu passer à un de ses compagnons d'infortune, lequel a survécu et... à montrer cette chevalière jusqu'à ce qu'elle arrive sous les yeux de quelqu'un qui l'a reconnue. Je me suis projeté dans cette sorte de demi-frère. Donc c'est pas tout à fait un autre, mais c'est quand même un autre. Je me suis projeté pour m'acquitter de cette dette que je me sentais envers lui, ce personnage fantomatique à qui je sentais devoir des choses d'une façon un peu confuse et indirecte. Cet homme qui est mort à 27 ans n'a pas eu une vie d'une durée normale, donc je pouvais, en lui prêtant la mienne, un peu compléter la sienne. Je savais peu de lui, peu de choses, mais je savais d'autres choses un peu plus nombreuses sur ma famille en Hongrie, le lieu où ils habitaient, ce que faisaient les uns les autres, les années de lycée de mon père. Bon. Donc j'ai pu, en empruntant des choses autour de lui et le peu que je savais de lui, évoquer sa figure et lui reverser en quelque sorte des choses de moi pour voilà, tenir aussi cette... enfin, répondre à la proposition, c'est-à-dire me projeter, moi, dans cet autre qui est un demi-frère. C'est une opération assez complexe, évidemment, puisque, ce faisant, je devenais le frère de mon père.
Oui, mais vous l'avez complexifié, parce que vous ne vous êtes pas simplement mis dans un autre. Il y a sans arrêt un va-et-vient entre vous deux. Ça vous permet de retravailler sur le thème du double, qui est un thème, on va le voir, qui parcourt toute votre œuvre. Donc, par exemple, en effet, quand vous parlez de vous... Donc, il y a deux Sandor F. Il y a celui qui est mort dans ce wagon et il y a l'autre qui est vous. Vous dites, moi, Sandor F., né à Paris en 1944, que sais-je de tout cela? Comment tout cela est-il parvenu jusqu'à moi, qui n'ai jamais connu Sandor F., que Sandor F. n'a jamais connu, n'ayant su que ma naissance, dont il a félicité son frère Karoli, mon père, mon frère, dans une carte postale datée de mars 1944, est parvenu de Budapest à Paris. C'est-à-dire qu'il y a sans arrêt un va-et-vient entre le fait, en effet, que vous êtes devenu, vous êtes à la fois le fils de votre père, mais du coup, vous êtes à nouveau le frère de votre père quand vous êtes de Sandor F., l'autre.
Tout à fait. Et dans cette opération, il y a un autre leitmotiv, je dirais, en dehors de ce double Sandor F, celui qui est né en 1917 à Budapest et celui qui est né en 1944 à Paris. Il y a, pour aller de l'un à l'autre et de donner corps à ce titre, moi, Sandor F, il y a le thème de « je me souviens, j'imagine ». C'est-à-dire que de certaines choses, je me souviens, pour deux types de souvenirs. Soit je me souviens qu'on m'ait raconté telle ou telle chose du passé de Sandor F., soit je me souviens de choses que j'ai vécues moi et que je peux projeter sur lui. Donc il y a ces deux types de souvenirs. Et puis, en me projetant sur lui, j'imagine des choses parce que je les transpose. Par exemple, les premières expériences, les premières aventures amoureuses, j'emprunte à ce que j'ai pu ressentir, vivre moi-même, mais dans d'autres lieux. Donc je lui prête d'autres expériences, d'autres histoires. Pour moi, ça s'est passé à Londres, pour lui, ça se passe en Bohême. Donc dans tout ça, il y a ce jeu entre « je me souviens » et « j'imagine ».
Mais il y a aussi le fait que, par exemple, vous dites à un moment que Sandor F., né à Paris en 44, donc vous, « j'ai toujours rêvé des prairies, des ruisseaux, des étangs et des forêts de Bohême, je ne sais pourquoi », alors que vous n'y êtes allé que bien plus tard.
Tout à fait. C'est une rêverie étrange. Et là, voilà, ça fait partie des mystères des transferts. D'une part, j'ai toujours rêvé, pourquoi, en effet, des prairies, des forêts, des rivières, des étangs de Bohême, que j'ai découvert beaucoup plus tard. Et je ne sais pas comment c'est venu jusqu'à moi. Ça a dû venir jusqu'à moi de façon indirecte. J'ai dû entendre évoquer ces lieux, ces paysages, et par ma tante, par mon père, par leurs amis, quand ils parlaient... D'ailleurs, quand il parlait le plus souvent hongrois autour de moi, ou quand il parlait une langue que je connaissais, comme le français ou l'anglais, mais avec un accent hongrois très fort. Donc, des choses me sont venues de façon mystérieuse, sans qu'il y ait, comment dire, un don direct. Personne ne m'a dit un jour, voilà, les forêts, les étangs, les rivières et les prairies de Bohême sont magnifiques. Personne ne m'a montré de livres. C'est arrivé autrement.
Mais Sandor F., l'autre, lui aussi s'intéressait à la photographie. Et à un moment, vous dites, que peut-on faire dire à une photographie? Peut-on la faire mentir ou y a-t-il en elle un noyau de vérité dure qui résiste à la falsification? C'est quoi la réponse?
Alors, c'est vrai que la photographie a longtemps été considérée, et Barthes encore lui-même le dit, comme une trace de ce qui a été. Quelque chose a eu lieu. Et... c'est vrai pour beaucoup de photographies, c'est incontestable. Quelque chose a eu lieu. Néanmoins, la photographie, elle oblitère le souvenir autant qu'elle le conserve, puisque la photographie, elle cadre, elle sélectionne, elle organise l'espace, elle sélectionne dans le temps un instant, et elle ne conserve que cela, alors que il y avait d'autres choses hors champ, il y avait d'autres choses avant ou après l'instant de la photographie. Donc la photographie est forcément à la fois une trace et un mensonge. Le plus souvent, elle est un mensonge, même si elle est, même si elle est une empreinte de quelque chose qui a réellement eu lieu. Sans compter que, mais ça, ça nous entraînerait dans une autre, dans un autre aspect de mes travaux, sans compter que la photographie peut être aussi l'image de quelque chose qui n'a jamais eu lieu. Et d'ailleurs, alors là, bon, j'en parle 30 secondes, une grande partie de mon travail de photographe consiste à créer des images photographiques de choses qui n'ont jamais eu lieu, qui n'ont jamais été visibles à l'œil nu et que seul l'appareil a vu. Et que moi, je ne vois moi-même qu'il ait fait ces images que quand je vais chercher la pellicule au laboratoire. Donc, quelque chose s'est déposé sur la pellicule, du temps, du mouvement, justement les choses qu'en principe la photographie ne conserve pas, puisque la photographie est réputée n'enregistrer que l'instant et la fixité, ou en tout cas elle fixe et elle fige. Voilà, moi j'ai fait beaucoup, beaucoup de travaux photographiques qui sont des dépôts de temps et de mouvement sur une image fixe. Voilà, donc je conteste radicalement l'idée que la photographie est toujours la trace de quelque chose qui a eu lieu. Et même quand elle est une empreinte directe, elle est toujours une forme de trucage quand même.
Et alors dans Moi, je t'endors F aussi, il y a un moment à l'apparition d'une nageuse pragoise. Alors ça m'a intriguée parce que je me suis demandé si c'est celle que j'avais retrouvée dans un livre dont on va parler tout à l'heure, j'espère, qui s'appelle Immersion.
Oui, je pense que c'est toujours la même. Je pense que c'est toujours la même nageuse pragoise. C'est une figure énigmatique pour moi, dont je ne sais pas exactement d'où elle vient.
Enfin, dans l'immersion, elles sont plusieurs en plus.
Dans l'immersion, elles sont plusieurs. On en voit déjà une dans les trapézistes et Laura.
Oui.
C'est une figure de la séduction féminine. Je ne sais pas pourquoi, pour moi. Il y a les origines, il y a la natation, il y a le corps d'une nageuse, il y a le rapport à l'eau, qui est très important. Il y a le physique, disons, des jeunes filles tchèques. Je n'en ai pas spécialement fréquenté dans ma vraie vie. Mais cet ensemble de la nageuse, de la Tchécoslovaquie, ou de Prague, voilà, constitue pour moi une sorte de mythe féminin. Et j'y ai souvent recours. Enfin, la nageuse refait surface très souvent à un moment donné, à un moment où cette figure-là m'est nécessaire. J'aurais du mal à m'expliquer mieux.
Mais dans Moi, Chant de rêve, vous parlez aussi du fait que celui né en 1944, a vu un jour la pianiste Marguerite Long, qui lui a parlé de ses mains. Et donc, vous avez failli aussi devenir pianiste, en plus de tout le reste.
C'était pas en plus, c'était avant tout le reste. C'était avant, puisque là, c'est vraiment la petite enfance. Effectivement, ma mère, qui avait beaucoup d'ambition pour ses enfants, c'est-à-dire pour ma sœur et moi, avait inscrit ma sœur dans un cours de danse avec une très bonne danseuse russe, dont je me souviens le nom, j'entendais parler d'elle, elle s'appelait Vera Krylova. Je ne sais pas si ça dit quelque chose aux spécialistes de la danse. Moi, je n'y connais pas grand-chose. En tout cas, ma sœur suivait des cours de danse avec cette danseuse russe. Et moi, j'avais été inscrit au cours qu'avaient créé Marguerite Long et Jacques Thibault dans un petit hôtel particulier de la rue Molitor à Paris, qui a été détruit il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps. Le bâtiment, c'est devenu, je crois, une église ou un immeuble d'habitation. Bref, il y avait ce cours et j'ai donc fait du piano de l'âge de 5 ans à l'âge de 10 ans. Avec Marguerite Long, dont j'étais un des élèves qu'elle aimait bien. Je me souviens que le samedi matin, on avait droit à jouer à côté d'elle. On allait dans l'école, on montait sur une estrade, on s'asseyait à côté d'elle et on déchiffrait des partitions. Elle donnait des partitions, puis il fallait déchiffrer. Et j'ai même donc commencé à donner des petits concerts collectifs à Salle Pleyel ou Salle Gaveau. Donc j'étais parti pour jouer du piano, pour faire une carrière de pianiste, ce dont mon père s'est beaucoup inquiété, car il me voyait décidément polytechnicien et homme d'affaires prenant la suite de ses affaires. Et quand je suis entré au lycée, à l'âge de 10 ans, il a revendu le piano en disant « c'est fini
le piano ». Vous n'êtes pas devenu polytechnicien pour autant?
Non, pas du tout. Il a dit « c'est fini maintenant, il faut être sérieux, l'entrée au lycée, il y a plein de matières nouvelles, le latin, le grec, tout ça ». le piano n'est plus compatible. En fait, je pense que mon père avait eu les oreilles cassées pendant toutes les fins d'après-midi, ou parce que je faisais ça très sérieusement. J'avais une répétitrice qui venait à la maison tous les après-midi. Quand je rentrais de l'école, je faisais du piano. Et quand mon père lui-même rentrait à la maison, il m'entendait faire du piano. Et je pense que voilà, ça devait être très dur.
Il s'est dit 10 ans encore, c'est trop.
Non, c'est infernal.
Et vous jouez encore?
J'ai repris, moi, longtemps après, quand j'ai eu 20 ans, j'ai voulu reprendre le piano. Et là, j'ai retrouvé d'ailleurs une très belle professeure qui avait été l'élève, elle, de Cortot. Et c'est elle qui m'a accepté sur présentation de mes mains. C'est une dame qui avait déjà 75 ans, qui n'avait que 2 ou 3 étudiants, et qui les choisissait. Donc, choisissait sur les mains. Et voilà. Elle m'avait beaucoup surpris d'ailleurs, parce qu'elle m'avait fait présenter mes mains, et je le raconte dans le livre. Elle m'avait dit: vous avez les mains de Geza Handa. Et Geza Handa, c'est justement un pianiste hongrois. Elle m'avait accepté sur surtout la main gauche.
Oui, dans le livre, vous y voyez une symbolique quand même assez forte.
Ouais, tout à fait. Donc, oui, mais voilà. Donc, j'ai repris le piano, j'ai loué un piano, j'ai repris une professeure, et puis finalement, j'ai quand même abandonné. Donc, je ne joue plus. Mais je n'ai pas renoncé complètement.
À rien.
À rien.
Mais tout à l'heure, vous avez fait allusion, en parlant de chants de rêve, aux apprentissages amoureux, et vous avez parlé de Londres, en disant que pour vous, il s'était passé des choses à Londres. Et ça, c'est le sujet plutôt de l'amant en culotte courte. Mmh. Et au fond, est-ce que c'est pour vous le plus directement autobiographique de vos livres,
Je dirais que c'est même le seul. J'ai commencé, en fait, par des touches autobiographiques dans des livres qui n'étaient pas des autobiographies. Ça, c'est une chose qui m'a beaucoup plu. Avant de comprendre que j'allais arriver à écrire et que je m'essayais à des petits textes comme ça, répondant souvent à des sollicitations d'amis ou même de certains de mes étudiants qui créaient des revues ou qui me disaient, voilà, qui me sollicitaient, j'avais donc, ne sachant pas où, à quoi je réussirais, ni si j'allais réussir vraiment à écrire des livres, et donc je faisais par exemple des textes de fiction, des petites nouvelles, et je les accompagnais d'une sorte de contre-champ autobiographique. Et j'appelais ça des fragments autobiographiques que je numérotais. J'ai fait ça aussi dans des textes à caractère un peu théorique, des essais sur un thème. Et quand quelque chose, un souvenir, un épisode de ma vie me semblait en relation avec tel propos à caractère un peu théorique, j'ai aussi aimé mettre en regard d'un essai un fragment autobiographique. Et donc, je l'ai fait, je les ai numérotés. Je crois que le dernier que j'ai publié à ce jour sous cette forme-là, c'est dans le livre que j'ai écrit sur l'accent, un livre qui s'appelle « L'accent de langue fantôme », où j'introduis un fragment autobiographique qui est justement la question des accents dans ma famille. Quand j'étais enfant, tout le monde parlait le français avec un accent dans ma famille. J'étais le seul avec ma sœur à parler le français de Paris. Et d'ailleurs, c'était pour moi un signe de complicité d'entendre le français parler avec un accent. Je continue à préférer d'ailleurs le français parler avec un accent étranger. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai commencé à faire des petites touches à caractère autobiographique en relation avec des textes qui ne l'étaient pas, soit des fictions, soit des essais. Et L'amant en culotte courte est le seul vrai texte entièrement autobiographique, qui n'est que ça, qui n'est... Bon. Et qui d'ailleurs, je pense que ça mérite qu'on en dise 2 mots, parce que l'éditeur de ce livre, Bernard Comment, au Seuil, qui a repris la direction de la collection Fiction et Compagnie qu'avait créé Denis Roche, me poussait à indiquer roman. Et je lui dis, mais écoute, non, ce n'est pas un roman. Pour moi, ça a été un travail complètement différent, justement, de l'écriture romanesque, puisque ça a été un travail de remémoration, de recherche, de fouiller dans ma mémoire, de découvrir d'ailleurs à quel point la mémoire est beaucoup plus riche que ce qu'on croit quand on se remémore un épisode, on en voit émerger les saillies, les crêtes.
Mais vous écrivez que vous pensez n'avoir rien oublié dans le livre. Aucun visage, aucune personnalité, aucune émotion, aucun événement, aucun moment, aucune action, aucune anecdote, aucun état du ciel, aucune odeur de gazon ou de vieux meubles, aucun parfum délivré par la chevelure de Barbara ou par son corps, aucun accessoire, aucun objet.
Mais c'est vrai, j'ai découvert en fait, contrairement à ce que je pensais quand j'ai commencé ce livre, l'anecdote en était mince. C'est la première aventure sexuelle et amoureuse, bon, pour un gamin de 13 ans avec une fille de 20 ans. Bon, c'est assez, bon, c'est une situation qui n'est peut-être pas trop courante, au cours d'un un mois de juillet passé en Angleterre. Bon, pour moi, c'était un très joli souvenir, fondateur, auquel j'étais très attaché et auquel j'aimais repenser dans des moments d'humeur maussade. Mais je pensais que j'allais en écrire 150 pages. En fait, j'ai découvert en écrivant, et là, c'est encore une des vertus de la littérature, que la mémoire conserve infiniment plus de choses que ce qu'on croit quand on ne la fait pas travailler, quand on ne la sollicite pas. Si j'avais raconté au cours d'une soirée entre amis cet épisode londonien, j'en aurais raconté voilà ce qui me vient tout de suite à la tête et ça aurait été assez simple et trivial. En écrivant, je me suis rendu compte, et en travaillant un peu, en regardant dans les calendriers, par exemple, je suis arrivé le 1er juillet, c'était quel jour de la semaine, etc. Bon, il faut un peu faire de recherche, mais je n'avais aucune trace. Hein. Je n'avais aucune trace, aucun document sur ça, même aucune photo, rien. Mais donc, tout ce que j'ai retrouvé, j'en suis sûr, ce sont des choses dont je me suis souvenu. Quand je suis arrivé au bout du livre, il faisait 600 pages et non pas 150, et j'aurais pu encore en écrire 200. Et là, je me suis dit, non, il faut que je m'arrête, parce que bon... Mais d'autres choses revenaient, d'autres détails, bon... Alors, là où la chose me semble intéressante à propos du désir de Bernard Comment, que ça s'appelle roman. Bon, les éditeurs, ils aiment bien publier des romans, parce que ça marche bien, disons. Donc, il avait très envie que j'appelle ça un roman. Et moi, j'ai refusé que ça s'appelle un roman. Donc, il n'y a pas le mot roman sur la couverture, mais j'ai découvert que c'était arrangé pour le mettre en page intérieure.
Mais pourtant, c'est un livre qui a été, j'allais dire, très célébré par des lecteurs non fléchériens, je dirais.
Oui, oui. Ben justement, parce que peut-être que...
Il y a eu plus de succès critique, enfin, il a été plus commenté de manière, oui, comment dire, même, enthousiaste que d'autres de vos livres.
Ben, je pense que comme il est une autobiographie, il échappe au thème qui m'intéresse aujourd'hui, au thème de mon imagination ou de mes intérêts, puisque justement, là, je ne suis pas dans mes intérêts d'aujourd'hui, je suis dans la recherche de ce qui me motivait à l'époque, dans ce que le petit garçon que j'étais, qui voulait rester un petit garçon. Je ne voulais absolument pas renoncer aux privilèges de l'enfance, mais en même temps, je voulais avoir droit à certains privilèges des adultes. Donc, de ça, je me souviens très bien que je ne voulais pas renoncer à écrire ma lettre à ma grand-mère tous les jours, ni à construire mon modèle réduit d'avion, mais en même temps, je voulais avoir accès au lit de cette jeune et très jolie jeune fille. Donc je voulais tout, mais je ne voulais pas devenir un grand. De ça, je me souviens très bien. Je ne voulais pas devenir un grand. Je voulais rester un petit, mais avec les avantages des grands. Ce qui est plus intéressant, je trouve, d'ailleurs. Alors là où, quand même, finalement, Bernard Comment avait raison, c'est qu'en effet, ce livre, il a une forme romanesque, incontestablement. Pour moi, c'est très différent de ce qu'a été le travail de la fiction. Ça a été très différent. Ça ne consistait pas à imaginer des choses, à trouver des situations, un développement, une histoire, parce que je me laisse conduire par les... Quand je commence un livre, je ne sais absolument pas ce qui va se passer à la phrase suivante. C'est l'écriture qui m'apprend où je dois aller. Donc c'est l'écriture qui me fait découvrir le livre que je vais écrire. Donc la fiction, c'est ça pour moi. C'est partir à l'aventure à partir de quelques mots, une phrase de départ, une idée très, très sommaire, trois lignes, quoi. Alors que là, c'était très différent. Il ne s'agissait pas d'imaginer des choses, mais de retrouver des choses. Donc un travail intellectuellement très différent. Et de les décrire aussi fidèlement que possible. Alors, je me suis rendu compte que là où Bernard Comment avait d'une certaine façon raison, c'est que je n'ai pu écrire, ça va sembler paradoxal, mais je n'ai pu écrire ce texte vraiment autobiographique que parce que j'avais appris à écrire des romans. C'est-à-dire que si j'avais commencé par ce texte, ce dont je me serais bien gardé, quand je me suis enfin consacré à mon projet d'écrivain, je l'avais en tête cette histoire et ça aurait été une facilité de dire, ah ben, je commence par un joli souvenir de jeunesse et ça va être mon premier livre. Je m'en suis beaucoup méfié et je n'étais pas prêt en réalité. Je n'étais pas prêt. Je suis sûr que si j'avais commencé par ce livre-là, je l'aurais abîmé. Je n'aurais pas su restituer l'histoire dans ses finesses, dans ce qui était pour moi sa poésie, son émotion. Je l'aurais abîmé, je l'aurais déformé et ça n'aurait pas été fidèlement autobiographique. Donc, paradoxalement, je ne suis arrivé à la fidélité de cette empreinte en moi qu'en étant passé par l'apprentissage du roman. Et c'est parce que j'avais déjà écrit pas mal de romans, des fictions, souvent assez volumineux, des gros livres, qu'à un moment donné, je me suis dit, ça y est, cette histoire-là, je peux la raconter. J'ai les moyens techniques de l'écrire en espérant ne pas l'abîmer. Et ma crainte, ma plus grande crainte était d'abîmer cette histoire, que ça devienne soit nul, soit en tout cas non conforme à ce qu'était pour moi sa beauté. Et bon, donc ça c'était ma crainte. Mon espoir, alors ma crainte, je dirais que ça va, je pense que le livre, en tout cas pour moi, est conforme. Je n'ai pas dénaturé, je n'ai pas menti, je n'ai pas triché, je n'ai pas enjolivé, et en même temps, je n'ai pas abîmé. C'est comme ça, c'était comme ça. C'était vraiment comme ça. C'est-à-dire que maintenant, le livre, il s'est substitué pour moi à la mémoire. Le livre existe, il est ma mémoire sortie, comme on dit quand un ordinateur, vous mettez un disque dur externe. C'est ça, il est ma mémoire maintenant, le livre. Je ne l'ai plus, cette mémoire-là. La mémoire de cette histoire, ce n'est plus dans moi, c'est dans le livre. Mais il a fallu que je passe par l'apprentissage du roman. Et sinon, si j'avais commencé par ce livre, je pense que j'aurais fait effectivement 150 pages très, je sais pas, très, très maladroite et décevante pour moi. Ce que je voulais dire, oui, ça me revient, c'est que j'avais un espoir qui lui a été déçu, c'était de trouver en écrivant, et d'ailleurs, donc ça prouve à quel point, quand même, dans ce travail, je pense avoir été rigoureux, j'espérais trouver la réponse à une question qui m'a longtemps trotté par la tête, c'est pourquoi une jeune fille de 20 ans, qui avait d'ailleurs un très beau petit copain, un Irlandais de 24 ans, très beau gosse, je me disais, quand je serai grand, j'aimerais ressembler à ce type-là, pourquoi cette jeune fille a cédé à la pression d'un gamin de 13 ans. J'ai retrouvé une photo de moi à cet âge-là, j'étais pas un playboy.
Mais vous ne l'aviez jamais fait. C'était la première fois.
C'était la première fois. Ben, ouais. Ça, alors, c'était un mystère.
Les initiatrices, non ?
Je sais pas. Non, c'était pas le genre.
Il y a des gens qui aiment bien les premières fois.
Peut-être. Mais moi, je pense que je l'ai vraiment violé, quoi.
Ah ouais?
J'exagère. Que je l'ai vraiment forcé. Et Bernard Comment, toujours lui, avec qui je parlais du livre, m'a dit, mais écoute, c'est très simple, cette jeune fille a cédé à ton désir. Il y avait un tel désir ce petit garçon. Elle a peut-être pas trouvé ça chez son copain de 24 ans qui peut-être avait moins de désir. Donc en tout cas, je n'ai pas trouvé la réponse, moi. Je n'ai pas trouvé la réponse, et donc de ce point de vue-là, je suis resté dans le même état, dans le même questionnement qu'avant d'écrire le livre. Le livre ne m'a pas donné la réponse. Je l'aurais inventé si j'avais trouvé une réponse. Elle n'était pas dans mes souvenirs, et donc. La réponse n'existe pas, elle restera pour moi un mystère. Je sais ce que je voulais, je sais que je ne doutais de rien. J'étais quand même un petit garçon, vraiment un petit garçon, quoi. Parce qu'il y a des garçons qui, à 13 ans, peuvent en paraître 15 ou 16. Moi, c'était l'inverse. J'étais plutôt chétif.
Vous apparaissiez 8?
Non, quand même pas. Mais disons que
j'étais pédophile, la fille.
Non, j'étais pas un garçon très très développé pour mon âge. J'étais un petit garçon, voilà.
Mais moi, je l'ai lu comme un roman, mais pas tellement comme un roman de vous.
Ah, ça c'est intéressant. Ben alors, tant mieux, je dirais, parce que
c'est un peu comme. Je trouve que dans l'œuvre de Philippe Roth, qui est un écrivain que j'aime beaucoup aussi, je trouve qu'il y a des livres pour fanatiques de Roth comme moi, genre Opération Shylock, Le Théâtre de sa bataille. Il y a des livres pour moins retiens, comme Pastorale américaine. Et là, je l'ai vu comme un livre moins fléchérien. Alors, je voudrais qu'on parle d'un livre que je trouve hyperboliquement un livre d'Alain Fleischer qui s'appelle Prolongation. Et qui est un livre plus complexe que l'amant, que le tour, extrêmement complexe même, et qui pose une question à laquelle j'aimerais que vous répondiez. C'est au fond, est-ce que depuis la catastrophe, l'Europe joue les prolongations?
Alors c'est le sentiment que j'ai, dont je ne suis pas heureux, je ne m'y complais pas, mais je pense que l'Europe a été totalement défiguré, anéanti par la catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale, de l'Holocauste, qui a totalement défiguré l'Europe comme civilisation, faite d'équilibres très extraordinaires entre des populations différentes, des cultures différentes. Tout ça a été réellement anéanti. Donc l'Europe que nous connaissons aujourd'hui, je pense qu'elle est totalement différente de celle dont me parlait mon père, dont j'ai gardé une vraie mélancolie. Et quand je vois l'Europe aujourd'hui se chercher dans l'union, dans l'unification, je parle l'adoption d'une monnaie unique, la suppression des frontières, des tas de choses, mais qu'en même temps, elle ne cesse de se pulvériser quand on voit les séparatismes en Irlande, les Basques, les Corses, la Yougoslavie qui explose, la Tchécoslovaquie qui est pourtant un pays très sage, qui se sépare en deux pays. Enfin bon, il y a deux mouvements contraires, absolument antagonistes dans l'Europe. Il y a cette volonté de s'unir et puis en même temps une explosion en mille morceaux. Et quelque chose qui ne se reconstitue pas, c'est cette civilisation de l'Europe. Et donc, j'ai ce sentiment que l'Europe est dans un perpétuel match contre elle-même et qui reste un match nul, dans tous les sens du terme. Et que, on sait ce qui se passe, quand il y a un match nul, on joue les prolongations. Et qu'on est dans ces prolongations où...
Après, il y a des tirs au but.
Après, il y a les tirs au but. Alors là, ça devient dramatique parce que du coup, le résultat obtenu par les tirs au but, il est totalement arbitraire, il ne reflète plus aucune vérité, c'est une sorte de loterie. Et voilà, donc j'ai l'impression que dans cette lutte contre elle-même, l'Europe n'arrive pas à l'emporter. Et pour moi, la seule façon de l'emporter, ça serait... de recréer une civilisation comparable à ce que fut l'Europe avant la guerre, c'est-à-dire le centre du monde.
Mais dans les angles morts dont on n'aura peut-être pas le temps de parler, parce que finalement je vois que l'heure passe et que j'aimerais bien quand même qu'on vous pose aussi quelques questions, qui est un livre que j'aime beaucoup aussi, vous revisitez à nouveau, comme souvent dans vos livres, cette Europe, et vous dites qu'elle fut l'architecture même de l'esprit avant cet effondrement.
Tout à fait. Enfin, ça, je ne vais dire que des banalités, mais la psychanalyse s'invente en Europe, la physique contemporaine aussi, la musique contemporaine, l'art, la littérature. Enfin, bon, ce qui s'est passé en Europe entre le début du siècle et la Deuxième Guerre mondiale est absolument fascinant, fondateur. Tout se passe là. Et depuis, plus rien ne se passe là, en gros. J'exagère un petit peu, je suis un peu sévère, mais enfin, ça se passe principalement ailleurs, quand même. Dans Les Angles Morts, alors, c'est un livre totalement, je dirais, mélancolique et nostalgique, puisque là, j'échafaude une hypothèse de revanche.
Un peu comme Pastorale américaine de Philip Roth, oui, où il y a un narrateur qui revient pour fêter quelque chose.
C'est une chose alors que font les Hongrois de la génération de mon père, je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, les Hongrois de la génération de mon père fêtaient leur baccalauréat, l'anniversaire de leur baccalauréat. Ça, c'est d'ailleurs le signe d'une chose qui est très particulière à l'Europe centrale, c'est que pour les gens d'Europe centrale, les années fondatrices dans le destin d'un individu, c'est les années de lycée, les années de collège. C'est sur ça qu'ils reviennent tout le temps. Alors la littérature d'Europe centrale, le cinéma... foisonne d'exemples de ça. Hein. Chez Proust, c'est l'enfance. Chez Jean-Jacques Rousseau, c'est encore une autre période. C'est l'adolescence. Chez les Europes centraliens, c'est les années de lycée, qui sont le grand moment de la vie, le grand moment de l'intelligence, de la projection des destins, etc. Donc les Hongrois... avait pris l'habitude, j'ai vu mon père aller fêter les anniversaires du baccalauréat jusqu'à l'époque où il n'était plus que 3 ou 4. Il allait à Budapest pour fêter le 40e anniversaire du baccalauréat. Alors au fil des ans, les vieux messieurs se retrouvaient en tout petit comité. Et dans ce livre qui commence comme ça, en effet, avec un personnage qui va fêter le 30e anniversaire de son baccalauréat, j'échafaude l'hypothèse que ce monde disparu de l'Europe d'avant-guerre n'a peut-être pas disparu au sens où il serait définitivement détruit, une destruction qui ne laisse rien, mais qu'il est simplement passé dans un angle mort, c'est-à-dire que c'est un phénomène d'optique qui l'a fait disparaître, qu'il a été escamoté, comme on dirait qu'un magicien escamote quelque chose ou fait disparaître quelque chose, et que donc... Ce monde est passé dans un angle mort, ça serait l'hypothèse la plus optimiste pour moi, et que c'est le point de vue qui a été détruit.
Alors un angle mort, dites-vous, C'est une portion d'espace aveugle prélevée au champ du visible et où sont contenus le plus souvent, comme un risque ou comme une menace, des présences cachées. Il peut y avoir un monde derrière l'obstacle opposé à la vision quand le regardeur a été contraint de changer de point de vue. C'est bien ça ?
Tout le monde va croire qu'on a préparé ça pendant...
J'ai préparé. Oui, j'ai préparé.
C'est formidable. Oui, c'est vrai. Un angle mort, c'est... On peut en donner un exemple très simple. C'est quand vous êtes dans une voiture et que vous reculez, vous vous retournez, il y a une partie de la carrosserie, les montants, du toit, qui vous cache une portion d'espace.
Et quand quelqu'un vous double, il y a un moment où il est dans un angle mort.
Exactement. Où vous ne le voyez plus dans les rétroviseurs. C'est d'ailleurs un moment très dangereux parce que si à ce moment-là vous déboîtez pensant qu'il n'y a personne, vous découvrez que quelqu'un est en train de vous dépasser. Donc les angles morts, ils existent en physique, en optique. Et je me dis que une rêverie de cet ordre pourrait un jour avoir une explication, une réalité scientifique. C'est-à-dire que tout ce qui a existé et qui n'est plus visible, qui a disparu apparemment, est en fait relégué dans une portion d'espace où il est devenu visible et que c'est le point de vue qui a été détruit. Donc, si le point de vue est rétabli, la chose existe à nouveau. Je ne sais pas si des physiciens pourraient me donner un début de concrétisation théorique à une hypothèse de cet ordre qui relève, de l'astrophysique. Tout ça n'est pas totalement impensable. D'ailleurs, j'ai souvent tendance à croire que la fiction et ce genre de fiction, de rêverie, et y compris donc la science-fiction, est un mode de connaissance aussi sérieux, aussi fructueux que la vraie science. Peut-être mieux, puisque la vraie science, les théories de la science... Elles se démodent, elles sont dépassées tous les 10 ans, tous les 30 ans. Donc aucune théorie scientifique n'est définitive, que ce soit en chimie, en physique. Ça ne cesse d'évoluer. Donc il y a des théories que l'on tient pour efficaces et qui sont utiles à un moment donné, mais qui un jour sont dépassées par une théorie nouvelle. Donc la fiction, à la limite, elle se maintient plus. On peut encore lire aujourd'hui un livre de Stendhal sans se dire c'est totalement dépassé. On ne se dit jamais ça.
Homère non plus.
Voilà. Donc, à la limite, la fiction, elle se disqualifie moins que les théories scientifiques. Un roman du XXe siècle ne disqualifie pas un roman du XVIIIe, alors qu'il y a des théories scientifiques qui disqualifient la théorie précédente.
Je veux absolument arriver à lâcher le violon, donc je peux pas. Parce que prolongation, on pourrait faire très très long sur prolongation, parce que c'est un livre tellement tellement multiple, qu'il y a des enjeux tellement multiples. Vous en avez cité quelques-uns, mais dans prolongation, je voudrais qu'on parle quand même de deux choses. D'une part, le narrateur est interprète, donc ça n'est pas innocent, et il y a la question de la langue qui est très présente à plusieurs reprises, et il y a aussi une société secrète de vieilles personnes qui essaient d'imaginer ce qu'aurait pu être l'histoire si la catastrophe n'avait pas existé.
Alors, d'abord sur les interprètes, oui, le métier d'interprète n'est pas innocent puisque c'est le métier du passeur d'une langue à une autre, d'une culture à une autre, et il est une sorte d'auteur par procuration.
Oui, mais il y a une scène que j'adore dans ce livre qui est terrible sur la question de la langue, c'est quand le narrateur rencontre deux personnes et il est perdu dans la ville. Donc il leur demande le chemin et il y en a une qui parle yiddish et l'autre qui parle allemand, si je me souviens bien. Et finalement, il renonce à lui donner le chemin en disant si on vous le dit en yiddish et si on vous le dit en allemand, ça ne va pas être le même chemin, donc vous allez forcément vous perdre, donc il vaut mieux que vous ayez vous-même au jugé.
Mais ça, je crois beaucoup à ça, et ça renvoie à de la théorie linguistique, c'est que le réel n'existe pas autrement qu'à travers la langue. Donc chaque langue, ce qu'on appelle les langues naturelles, le français, l'anglais, le chinois, l'arabe, l'hébreu, découpe le réel à sa façon. Donc il n'y a pas de réel absolu, il y a le réel vu à travers une langue. Et il y a des exemples archi célèbres que donnent tous les manuels de linguistique. Un des plus célèbres, c'est l'arc-en-ciel. Le français voit sept couleurs dans l'arc-en-ciel. Tout le monde ici pourra dire les sept couleurs de l'arc-en-ciel. Comme si c'était une réalité physique, en se disant, bah oui, on les voit, il y a des tranches. Bon. Déjà, les Anglais n'en voient plus que six. certaines langues africaines n'en voient plus que trois. La réalité n'est à personne, puisque le spectre des couleurs, c'est un continuum. Il n'y a pas de tranche. Ça varie en continu de l'infrarouge à l'ultraviolet. Donc, la langue vous apprend à voir, à distinguer. Ah oui, là c'est le bleu, là c'est le vert, là c'est le jaune. En réalité, ça varie en continu. Hein? Et donc, c'est un exemple très très connu que je donne là, mais donc ça prouve à quel point la langue découpe le réel. Quand vous voyez un arbre sur une colline, pour vous, vous voyez l'arbre. Mais telle langue africaine donnera un autre mot selon que l'arbre est sur une colline ou sur une plaine, selon que l'arbre est tourné est orienté de telle façon ou de telle autre, ça sera pas le même mot. Les Esquimaux ont 300 mots pour dire la neige, évidemment. Puisque pour eux, la neige, c'est une réalité infiniment plus abondante, je dirais, que pour nous. Donc pour eux, la neige, ça veut rien dire. Il y a 300 mots différents pour 300 types de neige. Donc ça veut bien dire que nous percevons le réel. Alors je ne sais pas si le réel existe ou pas, mais en tout cas, nous le percevons à travers la langue. Donc c'est vrai que si on vous donne votre chemin pour aller d'un point à un autre dans deux langues différentes, vous risquez de faire des trajets différents.
Et alors, la réinvention de l'histoire, comme si la catastrophe n'avait pas existé.
Alors oui, dans cette ville de Kaliningrad, qui est une ville aujourd'hui qui est une esclave, comme on dit, de la Russie, puisque c'est un territoire séparé du territoire principal de la Russie, mais qui appartient à la Russie, qui, à l'époque de l'Empire communiste, était relié à la Russie par tous les pays satellites, donc on passait sans frontières. Aujourd'hui, comme ces pays sont devenus indépendants, pour un Russe qui va de Saint-Pétersbourg à Kaliningrad, il faut passer par des frontières. Donc ça pose un problème. Bon, mais en tout cas, cette ville de Kaliningrad, qui n'a aucun intérêt aujourd'hui, qui est une ville soviétique assez sinistre, a été Königsberg, c'est-à-dire la capitale de la Prusse orientale, la grande ville du XVIIIe siècle des Lumières en Allemagne. Magnifique ville, la ville de Kant, tout simplement, et de quelques autres. Et là, il y a dans cette ville de Kaliningrad aujourd'hui une sorte de cercle ou d'association de vieux spectres juifs dont on ne sait pas s'ils sont vivants ou morts, mais qui en tout cas tiennent des réunions, et qui parmi d'autres dans cette ville, rêvent à réécrire l'histoire. Il y a les Allemands, qui sont prêts à tout racheter. Les Allemands, ils rêvent évidemment, puis ils ont une puissance économique, ils sont prêts à tout racheter. Les Russes sont prêts à tout vendre, et les vieux Juifs, ils sont prêts à tout réinventer. Le problème, c'est que si, comme le pousserait ma mélancolie, on revient au point de départ, c'est-à-dire on se dit voilà, on arrive à reconstituer l'Europe d'avant la guerre et tout pareil, donc à Königsberg il y a des Allemands, il y a une petite communauté juive, il y a des savants, et que tout prend la même tournure, c'est pas la peine. Donc cette rêverie du retour en arrière, il comporte ce piège de la suite, parce que on peut assez facilement rêver au point où l'on veut revenir. On peut se dire, tiens, à tel moment, en 1927, c'est un moment idéal de l'histoire de l'Europe, avec les grands artistes, les savants, etc. Mais il y a la suite. Hein. Il y a 1933, la prise de pouvoir par Hitler. Donc, vous voyez, il y a ça, il y a cette rêverie.
En 1933, fait. On va y venir avec la hache et le violon.
Oui. Donc, voilà, revenir en arrière dans l'histoire, ça ne peut être intéressant que si la suite est différente.
Mais alors, malgré mon fanatisme pour la hache et le violon, je veux pas faire un saut au-dessus de Immersion, ce qui est assez difficile d'ailleurs de faire un saut au-dessus d'une immersion, parce que c'est aussi un très très beau livre. Alors là, ça se complique encore parce que résumer l'argument d'Immersion, ça me paraît assez difficile, étant donné que le narrateur lui-même ne sait pas très bien s'il doit retrouver une histoire ou s'il doit l'inventer. Donc déjà, la situation est assez compliquée au départ.
Oui, en effet, c'est le narrateur est un. On comprend que c'est un écrivain. Mais on ne sait pas s'il fait une recherche sur une histoire qui a eu lieu et dont il essaye de retrouver les protagonistes et une histoire un peu mystérieuse, ou s'il est là pour inventer une histoire. Et bon, ça serait un petit peu long, je crois, de décrire le.
Ah non, il faut le lire, sinon on n'y arrive pas.
Le dispositif. Simplement, je peux dire un mot sur ce livre que vous citez, c'est que Il commence à Venise et il s'attarde assez longtemps.
Je voudrais que vous disiez un peu un mot sur Venise, je vous dirais. Ouais. Et puis aussi, il y a cette figure du maître qu'on retrouve aussi dans La Hache et le Violon. Donc ça, c'est assez intéressant d'en parler. Ça permettra de faire un pont entre les deux livres. Mais je voudrais que vous parliez de Venise, parce que vous dites plusieurs choses, notamment que c'est une ville qui est dans ce que les photographes appellent le bain d'arrêt entre fixation et révélation des images. Et puis aussi, ensuite, vous dites que Venise, c'est cette interface entre celui que l'on est depuis toujours et celui que l'on attend, que l'on espère devenir, entre celui que l'on n'a jamais été et celui qu'on ne cessera plus jamais d'être.
Je vais avoir du mal à dire mieux.
Vous l'avez dit. Non, mais l'histoire du bain d'arrêt. Parlez un peu du bain d'arrêt, alors, parce que c'est pas évident,
oui,
pour nous.
Alors, Venise, d'abord... Ça me semblait impossible d'écrire un livre qui se passe à Venise. Bon, tout a été tellement dit sur Venise, filmé, photographié, évoqué par tant de grands auteurs et de grands créateurs que bon. Et puis, un jour, j'ai eu une perception de Venise dont je me dis, tiens, ça n'a peut-être pas été dit, ça n'a peut-être pas été travaillé. Venise baigne dans cette lagune qui est une sorte d'eau stagnante. Et ça m'a fait beaucoup penser, alors là on retrouve peut-être, contrairement à ce que j'ai tout à l'heure, mon expérience de photographe, ça m'a fait penser effectivement aux photographies dans un bain d'arrêt. Qu'est-ce qui se passe quand on développe des photographies traditionnellement, des noirs et blancs, dans un laboratoire, comme je l'ai fait pendant des jours et des jours? D'abord, vous exposez la photo à l'agrandisseur, le temps d'exposition, et puis vous la plongez dans un premier bain qui est le révélateur. Là, vous voyez l'image apparaître. C'est une feuille blanche, et puis vous voyez monter des contrastes, des noirs, bon, et vous voyez une image se constituer. C'est un moment assez magique où l'image apparaît, la chimie fait son travail, contrairement à ce qui se passe avec les appareils numériques où tout se fait instantanément, gratuitement. Et bon. Là, il y a ce temps de la chimie et de ce que les Américains appellent « wet technology », c'est-à-dire les technologies humides, il y a de la chimie, contrairement à « dry technology », c'est-à-dire les technologies électroniques. Voilà, premier temps. Deuxième temps, l'image étant constituée, étant montée, comme on dit, l'image monte, et quand elle est complète, quand on considère qu'il n'y a plus rien à ajouter à cette image, qu'il ne faut plus la laisser dans le bain du révélateur, parce qu'alors ça irait trop loin, elle se noircirait, on la met dans un bain d'arrêt. Ce bain d'arrêt, c'est un bain intermédiaire, en fait. Il arrête le processus de la révélation, il empêche que ça continue de noircir, mais il ne la fixe pas. Il y a un troisième bain qui est celui de la fixation, et là, vous mettez la photographie dans ce bain, et à partir de ce moment-là, quelques secondes après, vous pouvez rallumer la lumière, elle ne sera plus, elle ne bougera plus. Par contre, si vous rallumez la lumière normale, pas les ampoules rouges inactiniques, mais la lumière normale, avant que la photo ait été mise dans le fixateur, elle noircit instantanément. Donc le bain d'arrêt, c'est Venise. C'est-à-dire que Venise a été révélée depuis longtemps, l'image de Venise, vous ne pouvez rien y rajouter. Venise est faite, si vous y rajoutez quelque chose, c'est pour l'abîmer. Donc Venise est dans un état de complétude de son image absolument parfait, et Venise est dans un bain d'arrêt puisque Venise n'est pas fixée, que Venise continue d'être menacée, d'être détruite un jour, de s'effondrer, d'être envahie par un raz-de-marée. Donc j'ai eu cette idée, cette représentation de cette ville. En plus, avec cette présence de l'eau, tous ces bâtiments qui ont les pieds dans l'eau, de cette ville dans un bain d'arrêt, entre révélation et fixation, dans un état d'image absolument complète et définitive, mais pas définitivement sauvée, au contraire. Donc c'est ce qui m'a permis, à partir de cette petite métaphore, de m'attaquer à Venise. Ensuite, sur la question du vieux maître.
Qui est un scientifique qui est hanté par le marchand de Venise, mais si je ne me trompe, vous aussi, vous avez fait une sorte de réécriture du marchand de Venise.
J'ai fait le travail de ce personnage.
Ouais. Vous avez accompli le rêve d'Avigdor Sforno.
J'ai fait le travail que je prête à un de mes personnages. Mmh. Ce personnage... Alors d'abord, sur ces personnages de vieux savants, de vieux érudits dont j'ai besoin dans mes livres, je peux dire quelques mots. Mes livres ne sont pas dialogués. Il y a très peu de dialogues, ça ne discute pas entre les personnages. Toute la parole est concentrée, en général, dans la bouche d'un personnage. J'ai besoin que quelqu'un parle, mais pas sous la forme de conversations ordinaires dans les lieux de la vie quotidienne. C'est un moment de transmission de quelque chose par la parole. Et donc, toute la parole est concentrée dans la bouche d'un personnage qui détient une sorte de vérité, qu'il communique au narrateur, en général beaucoup plus jeune que lui. Ça, j'ai eu recours à ce dispositif dans beaucoup de livres. C'est une sorte d'économie, puisque tout est résumé dans ces moments d'échange entre quelqu'un qui parle et quelqu'un qui écoute. Et là, cette parole est une parole élaborée. Elle n'est pas évidemment la parole du langage quotidien. Dans le cas d'Immersion, ce vieux prince juif de Venise qui s'appelle Avigdor Sforno. Sforno est un nom qui existe effectivement et qui veut dire enlevé du four en italien, mais c'est un vrai nom et Avigdor est aussi un vrai prénom. Ce personnage, il travaille depuis 50 ans à une correction critique du Marchand de Venise de Shakespeare. Donc je dis qu'il passe 50 années de sa vie à étudier le texte, la situation de l'époque, etc. Et puis, un jour, dans une espèce de désir de constituer des archipels de textes, je me suis dit, tiens, si je faisais le travail que je prête à ce personnage, il y aurait une étrange suite à ce roman, qui ne serait pas une suite, qui serait une pièce de théâtre. Et donc je l'ai fait. Par contre, je n'ai pas consacré 50 années de ma vie à interroger le Marchand de Venise, à le retravailler, à le corriger. Je l'ai fait beaucoup plus vite, avec beaucoup moins de science et d'érudition que je ne prête à mon personnage, mais avec la même volonté de corriger Shakespeare, en quelque sorte, et entre guillemets, de corriger la leçon de cette pièce, qui est une leçon inacceptable. La leçon est inacceptable. C'est à juste titre que cette pièce a fait problème. J'ai trouvé quelques solutions. D'une part, alors, j'ai retraduit entièrement le texte. Je suis vraiment parti du texte de Shakespeare. Je me suis équipé des dictionnaires d'ancien anglais et élisabéthain qu'il faut. J'ai trouvé que les traductions existantes sont assez mauvaises. C'est un texte qui n'a pas intéressé les grands traducteurs de Shakespeare. Il y a des textes de Shakespeare admirablement traduits. Celui-là ne l'a jamais été, n'a jamais été bien traduit. Donc je me suis attaqué, j'ai fait la traduction. Je ne change rien à ce que Shakespeare fait dire à ses personnages, je n'enlève rien, je rajoute. Je rajoute de deux façons. D'une part, je pousse certains personnages à aller plus loin dans leur vérité, à se démasquer en quelque sorte. Et vous verrez que je donne un sens particulier au mot démasquer. Je les pousse à se démasquer, et notamment les Vénitiens, dans leur motivation. Et puis je rajoute un personnage, carrément, donc autre rajout, qui est un petit neveu de Shylock, qui est, passez-moi l'expression, un petit fouteur de merde. Et qui va pousser les gens il va dire leurs quatre vérités aux gens. Il est très polisson par ailleurs, et donc il est toujours sous les jupes des filles, et il a une perception des choses avec cette extraordinaire logique que peuvent avoir les enfants pour voir la vérité quand on la cache. Quand je dis démasquer, quand je dis que je pousse les personnages à se démasquer en leur faisant dire plus, en allant un peu plus loin dans leur raisonnement, dans leur motivation, pourquoi ce marchand de Venise, souvent on pense que le marchand c'est Shylock. Shylock c'est le juif qui prête. Le marchand de Venise c'est un Vénitien qui envoie ses vaisseaux sur les mers, qui lui s'en fiche complètement, qu'il y ait des naufrages, que les marins meurent. Lui ce qui l'intéresse c'est de faire du commerce et de gagner de l'argent. Voilà. Donc, tous ces personnages ne m'ont semblé tout d'un coup, enfin, toute l'histoire du marchand de Venise ne me semble explicable, ne me semble justifiable que si on la situe au moment du carnaval. Et là, si on situe la pièce à l'époque du carnaval, qui existait évidemment déjà à l'époque de Shakespeare, beaucoup de choses s'expliquent, beaucoup d'invraisemblances. Dans la pièce, c'est une femme déguisée en juge qui donne la sentence, enfin, des choses invraisemblables. Des choses invraisemblables. Tout est invraisemblable, sauf si on considère que ça se passe au moment du carnaval et que donc les gens se déguisent, que c'est normal de changer d'identité, de changer de sexe, voilà. Et donc voilà, j'ai adopté ce parti. Il s'est trouvé tout à fait par hasard que j'ai croisé des Shakespeariens qui m'ont dit qu'ils travaillaient sur cette hypothèse. De l'importance du carnaval dans l'inspiration de Shakespeare pour le Marchand de Venise.
Alors, on n'aura pas le temps de parler des ambitions des avoués. Ça m'aurait bien intéressé pourtant, parce que c'est un roman d'apprentissage à l'envers, ce qui est quand même assez exceptionnel. Mais je voudrais quand même, avant de vous donner un peu la parole, qu'on parle de L'âge et le violon, puisque c'est vraiment un livre que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Non, que je n'aime pas les autres, mais il y a une séduction tout à fait particulière pour moi. Évidemment, l'argument, on pourrait penser à La Peste de Camus, mais déjà, comme j'aime pas beaucoup Albert Camus de manière générale, et qu'en plus je pense que La Peste, c'est un de ses plus mauvais livres, le vôtre n'a rien à voir.
L'Hussard sur le toit est beaucoup mieux.
Voilà. Et évidemment, il a quelque chose de kafkaïen, ce livre, sauf que à partir de la même sensation de chaos, vous préférez l'humour et le rire au désespoir. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? On est dans une ville où un homme est professeur de piano et la musique est très importante dans L'âge et le violon, mais on ne sait pas si en fait un fléau s'abat sur la ville et on ne sait pas si la musique est la responsable du fléau ou au contraire l'antidote au fléau. Et à partir de ça, il se développe des tas de choses. Alors, il y a aussi un vieux maître qui s'appelle Chavansky, et qui, lui, pense que la musique est l'antidote au fléau. Les autorités ne sont pas de cet avis. Elles se mettent à interdire qu'on fasse de la musique parce qu'elles pensent que la musique est responsable du fléau.
Tout à fait. Je crois que vous avez parfaitement résumé l'argument du livre.
Mais il y a les esters aussi.
En effet, c'est une ville danubienne, je dirais, où tout d'un coup, des gens meurent mystérieusement, des jeunes, des vieux, dans toutes sortes de situations. Mais en général, leur mort violente, soudaine, est liée à un bruit, à la perception d'un bruit, et donc aussi de la musique, musique plus ou moins proche, des gens qui reviennent d'un concert ou qui étaient en train d'écouter de la musique à la radio, bref. Cette sorte d'épidémie de fléau mystérieux, et vous avez tout à fait raison de citer les livres sur les épidémies, comme la peste de Camus, je pense au Hussard sur le toit de Giono, qui est un meilleur livre d'ailleurs, je trouve, que le livre de Camus. C'est vrai que c'est un livre sur l'épidémie, sur un fléau. Donc ce fléau, inquiète. On en cherche les origines. Les pouvoirs publics, comme vous le dites, attribuent ça à la musique, donc interdisent la musique, n'autorisent que les musiques militaires ou les musiques patriotiques. Et puis finalement, ils interdisent tout. Bon. Et puis il y a les musiciens qui, au contraire, avec à leur tête Chavansky, qui est un ancien ingénieur en optique devenu luthier à la retraite, qui défendent qu'au contraire, c'est la musique qui est l'antidote capable de résister à cet ennemi mystérieux. Ce que j'avais imaginé dès le départ de ce livre, ça me fait plaisir que ce soit votre livre préféré parmi les miens, parce que c'est mon plus ancien projet. C'est un projet que j'ai eu quand j'avais 18 ans dans un concert auquel j'assistais et où la pianiste dont je tairai le nom par gentillesse avait fait plus de fausses notes que de notes justes.
C'était pas Clara Askew.
Non. J'avais rêvé à ça, à ce sujet. Et donc, en tout cas, il arrive un moment où le pouvoir est pris par les musiciens. C'est-à-dire que on se rend compte que finalement, en effet, la musique est peut-être le seul antidote contre ce fléau. Et du coup, ça donne un pouvoir à tous les gens qui ont un rapport à la musique, les chefs d'orchestre, les musiciens, etc. Et donc, dans un premier temps, ça crée une situation un peu idéale. On imagine un pays entièrement sous l'autorité de la musique. Pour moi, c'est une sorte de rêve absolu. Et on voit alors défiler dans les forêts, dans les campagnes, des orchestres qui jouent Brahms, qui jouent Beethoven, traversent les rues. Enfin, ce sont des choses qui m'ont fait rêver. Peut-être les seules scènes que j'ai écrites, que j'ai pu imaginer filmer. Peut-être les seules que j'ai pu imaginer filmer. Je voyais des orchestres défilant dans des campagnes, voilà, dans des forêts, dans des montagnes. Et alors, il y a un moment où le livre passe par cet état en quelque sorte idéal, où le pouvoir politique est pris par des artistes et de l'art le plus fascinant pour moi, le plus mystérieux, le plus sublime, la musique. Et puis on se rend compte qu'en fait, c'est un dévoiement, que c'est une perversion et que les musiciens qui prennent le pouvoir comme ça, c'est pas les bons et que c'est une perversion de ce que doit être la musique. Voilà.
Donc c'était parti. Il y a beaucoup d'autres choses dans ce livre.
Oui, j'espère.
Mais vous travaillez beaucoup sur le double, on l'a déjà dit. Mais là, finalement, elles sont trois. Donc le narrateur a une histoire avec une de ses anciennes élèves, peut-être, qui s'appelle Esther. Mmh. Mais en fait, elles sont trois, ou alors elles sont la même, avec trois fonctions différentes selon les temps de la journée. On ne sait pas très bien.
Ben, c'est plutôt la deuxième version pour moi. C'est-à-dire, c'est un personnage de jeune femme qui incarne, c'est peut-être là que je l'ai, à mon avis, peut-être réussi le mieux, le fait que mes personnages masculins trouvent leur relation à leur destin et au temps à travers un personnage de femme. Ce sont les femmes qui donnent les temps de la vie du personnage masculin. Et cette jeune femme, elle est effectivement trois femmes dans des temps différents de la journée, presque.
Oui.
Le matin et de la nuit. Le matin, elle est une jeune fille qui vient faire son ménage. Ce monsieur vit seul, c'est une sorte de célibataire. Pas un vieux célibataire, mais enfin, bon, un célibataire, disons, d'une trentaine d'années. Cette jeune fille vient faire son ménage. Et donc, elle est une jeune fille de ménage, très, très modeste, très, très scrupuleuse, très précise dans son travail. Et puis, en début d'après-midi, pas tous les jours, trois jours par semaine, elle revient comme une très très brillante apprentie musicienne, sa meilleure étudiante de piano. Et puis une fois par mois, elle revient comme la jeune femme de la nuit, son amante.
Et peut-être elle est sa nièce aussi, c'est assez compliqué.
Je crois qu'elle l'est vraiment.
Ouais. Ah oui, peut-être. Bon, alors, si vous avez des questions, c'est le moment, parce que moi j'en ai plein que je vais réfréner. Alors, je vous les laisse, mais si vous ne les prenez pas, je les repique. Attendez, on vous donne un micro tout de suite.
Merci. Je ne sais plus de quel texte vous parliez tout à l'heure, mais vous disiez que vous vous étiez arrêté parce que vous aviez peur que ce soit nul, par exemple. Et je me demandais ce que vous trouviez, enfin, quand est-ce que vous vous arrêtez, quand est-ce que ce que vous considérez nul de votre écriture. Je serais curieux de savoir ce que ça donne quand vous écrivez quelque chose de nul. Et ce que je me demande aussi, c'est comment vous savez que vous devez vous arrêter puisque vous dictez. Comment vous savez que votre pensée a été complétée puisque vous savez vous n'avez pas de plan. Comment vous savez, par exemple, que, enfin, vous nous avez dit que vous étiez arrêté du récit de votre aventure londonienne à 600 pages, mais que vous auriez pu en faire 8 ans. Vous avez dit parce que bon, mais pourquoi finalement vous êtes-vous arrêté? Et je me demandais aussi comment vous pouvez les retravailler. Vous parliez du couleur de bronze tout à l'heure. Vous avez un bloc, et c'est vrai que si c'est un stream of consciousness, un truc à la Joyce, un flux de pensée, vous pouvez pas exactement le retoucher, retirer des phrases, parce que vous risquez de perdre la cohérence. Donc vous êtes obligé de travailler par bloc, vraiment retirer un paragraphe complètement. Comment est-ce que ça se passe?
Et je voudrais juste à compléter pour c'est comment on sait à quel moment c'est fini.
Voilà.
On doit s'arrêter.
Alors, je dois dire que, comme je l'ai esquissé tout à l'heure, mes livres, je les dicte, mais ils me sont dictés aussi. Ils me sont dictés par l'écriture elle-même. C'est-à-dire que à chaque fois que le livre me conduit à un objet, quand je dis un objet, c'est une situation, un lieu, j'ai besoin de l'épuiser. C'est-à-dire que j'arrive à un point où je me dis, bon, je n'ai plus rien à en dire. Je ne regretterai pas d'avoir oublié ceci ou cela. D'autres pourront dire autre chose, mieux, autrement. Bon. Mais moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc ça, c'est un sentiment que j'ai parce que, voilà, je suis arrivé au bout. Je suis arrivé au bout de ce que je peux dire de quelque chose. Ça se produit à l'échelle des propos successifs dans un livre, les situations, et puis à l'échelle d'autres unités du livre, les chapitres, et puis le livre lui-même. Par exemple, la temporalité dans les livres. Mais entièrement dicté par le livre lui-même. Je ne l'ai pas établi d'avance. Je ne sais pas si je vais écrire au présent, au passé, au futur. Je ne sais pas s'il va y avoir un narrateur ou plusieurs. Dans un livre qui s'appelle Le trapéziste et le rat, j'ai découvert en l'écrivant qu'il fallait que je passe par trois narrateurs. Je ne l'avais pas du tout prévu. Ça peut sembler une construction formelle. On peut se dire, tiens, il a voulu écrire un livre qui est vu par trois personnes. C'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. C'est que pour arriver à raconter l'histoire que j'avais imaginée, la situation que j'avais imaginée, ça n'était logique, ça n'était défendable que si trois personnes qui pouvaient avoir eu accès à telle ou telle partie de l'histoire la racontent. Donc c'est l'histoire elle-même, le récit, la littérature, qui m'a obligé à passer par trois narrateurs. Bon. Donc, si vous voulez, il y a un moment où le livre que je dicte m'est dicté par la matière que j'aborde, par ma technique d'épuisement des sujets que j'aborde. Et puis, il y a un moment où, alors là, peut-être que je redeviens un peu artiste, j'ai une perception de ses contours, de son volume, de son équilibre, je dirais. Et pour ce qui est de La main en culotte courte, j'étais très surpris d'arriver à 600 pages. Vraiment, je pensais écrire un livre court, enfin, parce que généralement, ils sont assez longs. Je me disais, enfin, ça va être un petit livre. En fait, j'ai eu un grand plaisir à découvrir tout ce que j'avais emmagasiné, à retrouver tout ça. Et puis, voilà, je suis arrivé très naturellement, au cours de cette rédaction, à une formule de 600 pages qui me semblait acceptable. Après, je me suis dit, tiens, il y avait encore ça. Mais bon, c'était trop tard, en quelque sorte. L'objet était fait, il avait sa forme, son contour, son poids, et même si je pouvais en rajouter, ça aurait... Là, j'avais le sentiment du superflu. Je pense que c'est un sentiment que peuvent avoir les musiciens quand ils écrivent de la musique, ou les peintres. Les peintres, je veux dire, les peintres classiques, hein, pas Jackson Pollock, mais il y a un moment où, voilà, le tableau, on ne le retouche pas à l'infini, on ne rajoute pas des touches supplémentaires. Voilà, si j'essaie de répondre à votre question. Quant au passage nul, alors, comment vous dire, ce sentiment que quelque chose n'est pas bien du tout n'affecte jamais... Peut-être que je me trompe, hein. Il y a peut-être des tas de choses complètement nulles que j'ai laissé passer, mais n'affecte jamais des grandes unités. C'est tout d'un coup un thème, une scène où tu as oui. Bon. Mais ça m'arrive assez rarement, je dois dire. Peut-être que j'ai tort, peut-être que je ne suis pas assez critique, pourtant j'ai tendance à me méfier parfois de certains travers ou de certains penchants. Et en général, quand je me relis, c'est une épreuve de vérité. Là, ça passe ou ça passe pas. Alors, dans 90% des cas, ça passe. Alors, je me dis, bon, ça va, c'est ce que je voulais faire. Et puis, bon, ça, c'est moins bien, je le supprime. Mais c'est rare. Et d'ailleurs, quand ça m'arrive très rarement, mais quand il m'est arrivé qu'un éditeur me dise, oh, tu devrais supprimer telle ou telle partie, je résiste absolument. Je n'ai cédé qu'une fois à notre ami Philippe Solers, qui trouvait qu'Immersion était un peu long, mais lui, il m'avait provoqué, il m'avait dit, écoute, t'en fais la moitié. C'était pour me pousser à en enlever 20 pages, ce que j'ai fait.
20 pages, ça va. Je vois rien, moi.
Une autre question ?
Bonsoir. Vous dites à un moment, je ne sais plus à propos de quel titre, que l'argument datait de vos 18 ans. Et d'autre part,
le violon.
Voilà. Oui. Et d'autre part, donc, vous avez dit que vous avez commencé par le cinéma, vous avez fait d'autres. Enfin, il y a eu d'autres chapitres, enfin, des chapitres dans votre vie avant d'arriver à la littérature. Et c'est des choses qu'on retrouve souvent chez beaucoup d'auteurs, entre autres pour le roman ou en tout cas pour la prose, pas pour la poésie. Est-ce que vous pensez qu'il y a un âge pour la littérature, ou est-ce que rétrospectivement vous dites c'est vrai, vous faites beaucoup de choses, mais certaines choses commencent à 20 ans et elles peuvent continuer toute la vie, et certaines choses ne commencent qu'à 30 ou à 40 ans.
Alors, je vais vous répondre de deux façons. D'abord pour moi, et puis ce que je pense en général. En général, moi j'ai tendance à penser que le grand moment de l'intelligence, c'est l'adolescence. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on est le plus intelligent, qu'on est le plus métaphysicien, qu'on est le plus poète. Je pense que c'est le grand moment et qu'après on ne fait que décliner, mais qu'on compense ce déclin par de l'acquis, de l'expérience, de la technique, de la maturité, qui sont des qualités d'un autre ordre. Mais par exemple, on sait que l'âge idéal pour apprendre des langues étrangères, c'est l'enfance. Et que après, on peut apprendre des langues à 50 ans, mais il faut être très motivé. On a moins de facilité naturellement. Donc ça, c'est en général. Je dirais que pour moi, le grand âge de l'intelligence, des projets, de la lucidité, de la métaphysique, je dirais, c'est l'adolescence. Ensuite, pour moi, il y a eu vraiment, en effet, des âges pour l'écriture. En fait, si vous voulez, j'ai été vraiment dès l'enfance partagé entre les images et les mots. Quand j'étais gamin, j'écrivais des poèmes. Je suis sûr que ces poèmes étaient absolument nuls, aussi nuls que ceux de Minou Drouet. Des poèmes d'une naïveté de gamin, quoi. Par contre, à 10 ans, j'ai fait des photos que j'ai encore et que je pourrais publier en disant que c'est des photos de jeunesse, mais enfin, elles sont publiées, elles sont regardables, c'est de la photographie des natures mortes, des paysages, des personnages. C'est tout à fait. C'est pas la photo que je fais aujourd'hui, mais je pourrais très bien les publier sans, alors que les poèmes ne sont évidemment pas publiables. Donc, pour moi, j'ai été beaucoup plus vite mûr à faire des images, à filmer, par exemple, aussi. Filmer, j'ai su filmer très vite, sans apprendre. J'ai pas été dans une école de cinéma et je sais que je sais filmer. Ça veut pas dire que je fais des bons films, mais je sais que je sais filmer. Vous me débarquez n'importe où, vous me dites il faut filmer, je sais que je ne serai pas en panne, que j'aurai pas le trac, je sais filmer. Donc j'ai atteint beaucoup plus vite une maturité dans la relation à l'image que dans la relation au texte. Même si je me suis essayé à écrire des textes très tôt, dont je ne sais pas trop à quoi ils ressemblent, j'ai publié finalement une nouvelle que j'avais écrite à l'âge de 20 ans, au retour d'ailleurs d'un voyage à Londres, et elle m'a semblé publiable, j'ai publié, c'est un récit un peu hoffmanien, comme ça, c'est... Mais dans mon cas, en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu un temps pour écrire qui est arrivé tardivement. J'ai commencé à écrire des petits textes, je sais pas, vers 28 ou 30 ans, mais je me suis vraiment consacré à mon projet d'écrivain beaucoup plus tard, vers 40, 45 ans. Et je ne sais pas ce que ça aurait été. Parce que les projets que je réalise sont tous des projets très anciens. Donc les projets eux-mêmes, je les avais. La hache et le violon, je vous dis, c'est une idée que j'ai eue à 18 ans au cours d'un concert. La plupart des livres que j'écris sont des projets anciens. C'est très rare que je m'attaque à un projet qui ait moins de 15 ou 20 ans d'âge. Comme les bonnes bouteilles. Donc, et en général, ils sont plus anciens. En général, ils sont plus anciens. Donc, les projets, je les avais. Les idées de livres, y compris parfois des livres très expérimentaux. Mais je n'avais pas... je pense que je n'avais pas la technique, je n'avais pas la maturité, je n'avais pas l'acquis de toutes sortes. Je ne sais pas, les voyages, la culture, les livres lus. Je ne l'ai acquis que plus tard, sans compter aussi, alors au contraire, l'obstacle du peu que j'avais, parce que j'avais quand même lu effectivement Kafka, Proust, Joyce et quelques autres, et alors à ce niveau-là de la digestion, c'était très très dur de les affronter, parce que, en fait, ça semble une extrême prétention, mais je ne voulais me comparer qu'à eux, en fait. Si c'était pas pour me comparer à eux, ça m'intéressait pas d'écrire. Alors qu'en image, même s'il y a eu de très grands cinéastes et des grands chefs-d'œuvre, j'étais un fan de la cinémathèque, j'étais un grand cinéphile, je voyais tous les films d'Eisenstein, de Ziga-Vertov, tous les expressionnistes allemands, Murnau, Lang, etc. Mais néanmoins, là, je me disais, bon, il y a encore plein de choses à faire. Je voyais très bien comment trouver mon truc à moi, malgré tous les grands cinéastes qui avaient existé. En littérature, c'était moins évident. Et je dois dire, pour être tout à fait honnête, qu'il y a eu un déclencheur qui m'a fait comprendre qu'on pouvait quand même aujourd'hui écrire en se disant c'est bien, il y a eu Kafka, Proust, Joyce et les autres, mais on peut tenter sa chance. Et ça a été la découverte de Thomas Bernhard. Thomas Bernhard, qui est mort il y a quelques années, mais dont on peut dire encore qu'il est un écrivain contemporain, après, qui est venu après tous les grands noms que je viens de citer, a réinventé la littérature. Réinventer une langue d'écrivain, un monde, et je me suis dit bon, donc c'est possible.
Je ne sais pas si on a le temps de prendre encore une question. Il faut arrêter. Je ne sais pas. Je ne vois pas. Peut-être encore une. Attendez. Le micro.
Bonsoir. Vous parliez de la notion de démasquer tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez développer?
Alors, je parlais de démasquer pour le marchand de Venise. Hein. Et c'est ce que je vous disais quand j'ai resitué, en refaisant cette traduction, en corrigeant Shakespeare, entre guillemets, en rajoutant des choses, un personnage nouveau et des répliques supplémentaires aux personnages existants, je les amenais à se démasquer, d'abord à dire réellement ce qu'ils sont, ce qui les motive. Ce marchand de Venise, il n'est pas clair du tout. Il n'est pas clair du tout. Ses motivations sont absolument horribles. Il veut séduire une femme dont la seule chose qui l'intéresse, c'est la fortune. Probablement qu'il ne s'intéresse pas particulièrement aux femmes. Il préfère ses amis. C'est un monde de jeunes gens brillants qui font la fête entre eux. On a l'impression que les femmes ne les intéressent pas vraiment. Ça, c'est clair. La dame de Belmont, c'est une dame qui a hérité de son papa une immense fortune. Et on a l'impression que c'est surtout ça qui les intéresse. Après, ce marchand de Venise, il a envoyé ses bateaux à travers les mers et il se lamente des naufrages qui vont lui faire perdre sa fortune. Il s'en fiche que les marins meurent. Donc, voilà. Je pousse ce personnage qui est présenté par Shakespeare comme le bon, le noble vénitien avec des sentiments nobles, la charité chrétienne, etc. Je le pousse à se démasquer, c'est-à-dire, en fait, voilà. Qu'est-ce qui l'intéresse dans l'entreprise de son ami qu'il va subventionner en empruntant au juif Shylock, aider cet ami avec qui il a une relation extrêmement, je dirais, tendre, qui est bien plus forte que la relation que va avoir cet ami avec sa future épouse s'il arrive à la conquérir. Donc tout ça, j'amène ces personnages à le dire. Et puis voilà, son rapport à sa fortune, à ses bateaux qu'il envoie à travers le monde sans lui se mouiller du tout, il continue à vivre une belle vie à Venise. Bon. Et puis se démasquer, surtout au sens où, comme maintenant je situe la pièce au moment du carnaval, on peut considérer que tous ces personnages sont masqués, que c'est un jeu en quelque sorte, que c'est un jeu, que tous ces personnages sont dans des situations carnavalesques de rôle, et que ça explique beaucoup de choses. Hein, quand le procès qui met Shylock en difficulté, en fait, est jugé par un faux juge qui est une femme déguisée en expert, en expert de la loi et des lois de Venise. Tout ça ne tient pas debout. Enfin, tout ça est totalement abracadabrant. Par contre, si on situe ça à l'époque du carnaval, avec les règles particulières au carnaval, ça devient explicable. Donc, démasquer, c'est dans ces deux sens. Pousser les personnages à dire réellement ce qu'ils sont et ce qui les motive, et à enlever leur masque de carnaval.
Mais alors, pour finir, je voudrais juste vous lire la dernière ligne de L'âge et le violon. Cela flotte dans l'espace comme l'écho de ce qui n'a jamais eu lieu, musique. Je vous remercie beaucoup. Merci Alain Fleischer.
Merci à vous. Je suis très touché par votre lecture de mes livres, parce que vous savez de mes livres, ça me touche beaucoup.
J'aime bien.